à voix nue. Toute cette semaine, de lundi à vendredi, rencontre en 2007 entre Pascal Vernus et Christiane Desroches Noblecourt. Ce soir, une conservatrice au musée du Louvre.
Madame Desroches Noblecourt, vous avez consacré beaucoup de temps et beaucoup d'énergie à votre carrière de conservatrice au musée du Louvre. Vous allez nous parler de ce merveilleux musée, s'il vous plaît.
Après la Révolution, vous savez que certains objets ont été déposés dans les bras bienveillants de l'administration des musées qui venaient d'être créés. Il a fallu un certain temps pour que cet embryon de collection devienne véritablement un ensemble constitué. Comme vous le savez, ils ont donc commencé par des objets de la couronne qui ont été saisis, des objets de collection de nobles, et puis petit à petit, c'est devenu la collection nationale. Le département des antiquités égyptiennes a commencé par prendre naissance au moment de la Révolution. Mais il a mis du temps à s'agrandir, et je dois dire que il est devenu très important à partir de Napoléon III. Maintenant, je peux dire que c'est la seconde grande collection du monde en égyptologie.
Vous la placez avant le British Museum et avant le musée de Turin.
Je le place en quantité, en nombre de monuments. Il y a évidemment des monuments très importants que les Italiens ont pu acquérir à Turin avant que ne se répande la mode des objets égyptiens. Donc, à Turin, il y a des objets vraiment uniques, comme une collection dans laquelle on avait déposé des statues royales. Il n'y en a pas. Avoir une collection d'objets égyptiens qui contient des statues royales grandeur nature, c'est très rare. Et ça a été fait naturellement en Italie au XIXe siècle. Comme importance, je dois dire que la collection égyptienne est tout de suite après celle de Turin, parce qu'elle n'a pas autant de statues royales. Et vis-à-vis des autres collections, elle figure parmi les premières, il n'y a aucun doute.
Dans la constitution de cette collection, il y a eu cette politique partagée par tous les souverains et chefs d'État au XIXe siècle qui envoyaient leurs émissaires en Égypte pour aller chercher des antiquités. Vous pouvez nous dire un mot sur ces aventuriers qui allaient rafler les antiquités en Égypte ?
Ah, il y a eu des bagarres. On ne peut pas trouver un mot plus spectaculaire que ces disputes entre des agents consulaires qui avaient pour mission d'acheter des antiquités dans des endroits où elles se trouvaient, c'est-à-dire encore rassemblées près des temples et des tombes, et de les ramener dans les différentes couronnes occidentales qui les avaient envoyées. Il est bien évident que le représentant qui aidait le futur département égyptien du Louvre, Drovetti, a engagé une bataille presque sans merci avec le représentant de la collection de Turin, qui lui aussi voulait obtenir des antiquités égyptiennes. Ces antiquités, en principe, n'étaient pas directement réunis sur place. Ils avaient trouvé un moyen beaucoup plus astucieux. Ils avaient des agents consulaires. Et les agents consulaires réunissaient un ensemble d'antiquités exceptionnelles. Et ensuite, on les vendait aux représentants du gouvernement, des gouvernements. C'est comme ça que la collection du Louvre a commencé à être bien constituée. Il y avait quelques petits objets, quelques antiquités égyptiennes, même à Paris. Mais, enfin, c'était rien du tout. Et à partir du moment où on a commencé à constituer des collections, eh bien, l'ensemble des objets égyptiens du Louvre est devenu presque le premier du monde à cette époque. Voilà ce que je pourrais vous dire, grosso modo.
Je vais vous poser une question qui est maintenant d'intérêt international. À l'heure actuelle, les Égyptiens revendiquent un certain nombre des objets qui se trouvent dans les grands musées européens. Quel est votre sentiment vis-à-vis de ces revendications ?
Aussi bien mon sentiment d'égyptologue, tout net, qu'un sentiment de conservateur des musées du Louvre. Les objets qui sont arrivés, par rapt, très peu, par vol, par acquisition, souvent, sont arrivés. Je crois, ils ont trouvé leur dernière crèche. C'est inutile de reconstituer et de recommencer à se disputer pour récupérer les objets. Je prends par exemple un des plus spectaculaires. Des voyageurs bien informés ont détérioré un des toits d'une chapelle de Dendera en Haute-Égypte pour récupérer un plafond que l'on appelle un plafond astronomique sur lequel il y a une espèce de zodiaque, il y a une forme ronde qui évoque la boule. Et autour de ce zodiaque, il y a quelques signes astronomiques, sans oublier les quatre points cardinaux. Et il est évident que ce zodiaque de Dendera, tel qu'on l'appelle maintenant, parce qu'il vient d'une chapelle qui était sur le toit du temple de Dendera, alors maintenant, il a été, il y a plus de 100 ans, amené à Paris et il figure au musée du Louvre. Il a été très mal exposé d'abord, contre un mur, ce qui était stupide. Ce zodiaque représentait la voûte céleste au sommet. Donc, heureusement, il y a quelque temps, je l'ai fait mettre en place comme il doit être, comme un plafond suspendu. Je ne sais pas si vous l'avez vu récemment, il est suspendu. Mais avant, il était plaqué contre un mur. C'était un tout petit peu anachronique. Voilà. Bon, alors le zodiaque de Dendera, qui est une des grandes antiquités qui est arrivée au Louvre au siècle dernier, est évidemment un monument très spectaculaire et qu'on n'aurait pas l'idée de faire revenir en place maintenant, comme toutes les antiquités qui existent dans les musées. C'est trop tard maintenant, on va pas s'amuser à dépouiller à nouveau les collections constituées et scientifiquement maintenant, étudiées savamment, pour les ramener en Égypte, alors qu'il s'est passé tant d'incidents depuis leur départ de leur pays d'origine. Donc je crois qu'il faut éviter et abandonner l'idée d'un retour des antiquités dans leur lieu d'origine.
Alors, question complémentaire, justement, avant que Mariette mette sur pied le service des antiquités, dans quel état se trouvaient les antiquités en Égypte ? Est-ce que les Égyptiens les respectaient ou est-ce qu'ils les utilisaient simplement à des tâches bassement matérielles ?
Très souvent matérielles. Et aussi, ils étaient utilisés comme présents des vice-rois à leurs invités de marque. Très souvent, tel fragment de monument a été donné par un vice-roi d'Égypte en cadeau. Et ça, c'est vraiment très désastreux parce que on pillait des monuments. Alors, la coutume, heureusement, est passée. Les objets ne reviendront pas de l'endroit d'où ils ont été tirés. Mais je crois que d'autres ne repartiront plus. C'est ce que l'on veut et ce que l'on peut éviter actuellement.
Dans le courant de votre carrière au musée du Louvre, vous avez fait des acquisitions. De quelle manière se sont opérées ces acquisitions ? Comment un musée peut-il s'agrandir ? Quels sont les moyens ? Est-ce qu'il y a des dotations ? Est-ce qu'il y a des donations ? De quelle manière vous avez réussi à enrichir le département égyptien, qui était déjà riche, mais après vous, il était encore plus riche ? Comment avez-vous fait ?
De mon temps. Bon, quand je suis entré de Louvre comme jeune chargé de mission, ça devait être en 1936. Le musée du Louvre était déjà bien fourni par des anciennes collections qui étaient déposées au musée, donc des collections constituées au hasard par des collectionneurs, par des antiquaires très peu, et par des achats encore moins. Depuis 60 ans, le Louvre est devenu une institution encore mieux organisée, mieux... comment dirais-je...
Structurée administrativement.
Conçue de façon à le considérer comme, à ce moment-là, le premier musée du monde. Évidemment, je ne parle pas du conservatoire d'Alexandrie, mais je crois que le Louvre a été, dès cette époque, dès le début du XXe siècle, le plus beau musée bien constitué, et surtout par des peintures, naturellement, mais par des antiquités grecques et des antiquités égyptiennes. Voilà, voilà le fleuron du Louvre.
Voix nue, rencontre en 2007 entre Pascal Vernus et Christiane Desroches-Noblecourt.
Parmi les objets qui sont arrivés avant la constitution des grandes collections scientifiques, il faut citer évidemment quelques chefs-d'œuvre, comme le scribe. Le scribe accroupi est la représentation d'un lettré, d'un intellectuel de l'époque des pyramides, en train d'écrire à la dictée de son maître, probablement accroupi comme les scribes. Du reste, sa position est devenue célèbre. Ce scribe est arrivé en Égypte après les fouilles du fondateur du service des antiquités de l'Égypte. Or, le fondateur du service des antiquités de l'Égypte a été un des premiers grands égyptologues, Mariette Pacha, qui a compris que on ne peut pas laisser partir les antiquités à droite et à gauche au bon vouloir des acquisitions de collectionneurs, et qui a fondé le service des antiquités en Égypte pour empêcher que les plus beaux objets ne partent en déportation, il faut bien le dire, partout, ce qui n'a pas empêché quelques départs d'antiquités clandestins. Voilà à peu près l'avenir qui menaçait les antiquités égyptiennes. Mais en fait, la constitution des collections égyptologiques des musées du monde s'est formée par des amateurs qui d'abord ont donné quelques objets qu'ils avaient achetés en Égypte ou ailleurs, car il y avait même en France des antiquités qui étaient parties depuis la Révolution et qui faisaient partie du patrimoine de certains révolutionnaires. Et les premiers conservateurs du musée du Louvre, quand notre musée s'est constitué, enfin quand notre palais s'est constitué en musée, les premiers fondateurs du musée du Louvre se sont penchés d'abord sur les antiquités gréco-romaines, sur les peintures et sur l'Égypte. Et c'est comme ça que nous avons eu au Louvre une quantité déjà assez importante d'antiquités égyptiennes. Alors parmi les premières antiquités égyptiennes, mon Dieu, je pourrais citer quelques statues qui ne vous diront rien, mais qui figurent dans notre collection, qui sont assez belles, dont un scribe en quartzite rouge-orangé, qui est assez beau et anoblit de sa présence la collection égyptienne au Louvre. Il y a eu naturellement, au début de notre siècle, des acquisitions en Égypte faites par des égyptologues, déjà des égyptologues français, qui ont fouillé en Égypte et qui, après leur travail, ont reçu l'autorisation du gouvernement égyptien de prendre certaines antiquités et de les emmener au Louvre. Mais c'était pour le Louvre. Tous ceux, français ou non, qui ont sorti des antiquités sans déclarer au service des antiquités qui venaient d'être créées par Mariette Pacha, sans donner la raison, sans exposer que c'était pour contribuer à la connaissance de l'égyptologie par l'exposition dans un musée, ceux-là n'avaient pas droit de citer et ne donnaient pas la permission que puissent sortir les antiquités. C'est ça le problème. C'est à partir du moment où le service des antiquités de l'Égypte a été fondé, créé d'une façon non seulement superficielle d'abord, parce qu'on n'avait pas les moyens, mais ensuite beaucoup plus solide, le service des antiquités était à la disposition des monuments d'Égypte qu'il fallait sauvegarder. Il fallait les sauvegarder en les protégeant en Égypte en même par des inspecteurs qui passaient dans les endroits où les antiquités se trouvaient, naturellement en faisaient le récollement et empêchaient que ces antiquités ne soient arrachées d'Égypte par des antiquaires. Ce qui n'a pas cessé du reste, même de nos jours. Mais enfin, c'est un peu moins fréquent de nos jours. Voilà tout ce qui menace les antiquités égyptiennes. C'est d'abord les fouilles clandestines, on trouve des objets, on se cache un peu pour les enlever et on les amène dans son pays. Ça, c'est le début. Ensuite, on fait des fouilles. À ce moment-là, les pays qui font des fouilles officielles, ont l'autorisation des gouvernements et du gouvernement égyptien. Et lorsque les objets sont trouvés et inventoriés, ils sont partagés entre le gouvernement égyptien et les pays qui ont fouillé. Maintenant, les pays qui ont fouillé n'ont pas le même quota, la même participation en quantité d'antiquités que les pays qui viennent réclamer leur dû, parce que, évidemment, les pays dans lesquels on trouve ces objets ont droit à garder, s'ils en expriment le vœu, ils peuvent tout garder, des objets qui ont été trouvés dans les fouilles par les étrangers. Mais la plupart du temps, jusqu'à à peu près une quarantaine d'années, il y avait ce qu'on appelle un partage, où lorsqu'il y avait des fouilles officielles dans des sites égyptiens, avec un contrat signé entre le service des antiquités égyptiens et puis les services étrangers, des fouilleurs qui fouillaient, tout se passait pour le mieux du monde. Maintenant, c'est beaucoup plus difficile, et le partage entre les objets trouvés légalement sur le chantier de fouille et le fouilleur ne se fait que parcimonieusement. Parce que les Égyptiens veulent garder à peu près tout ce qui est trouvé sur leur sol. Il est évident que c'est un peu, par moment, cela nous paraît de la boulimie, parce qu'il y a énormément d'objets sur le sol. D'autre part, l'Égypte est riche en antiquités. Il est évident que quand on trouve des trésors d'œuvres d'art, eh bien, le pays sur lequel on les a trouvés n'a pas du tout envie de les voir partir. Ça, il n'y a aucun doute. Alors ça, c'est le problème. Le musée du Caire s'est donc enrichi par les objets qui ont été trouvés sur le terrain égyptien, d'abord, non pas par hasard, mais presque par hasard, par les premiers hauts fonctionnaires français du service des antiquités, à la tête desquels se trouvait Auguste Mariette, qui est devenu Mariette Pacha, Mariette B d'abord et Mariette Pacha. Et ensuite, toutes les antiquités qui sont entrées au musée du Caire sont des objets qui ont été déposés par les fouilleurs égyptiens, qui naturellement avaient là l'endroit idéal pour exposer, dans le fond, les trouvailles qu'ils avaient faites. Et puis, il y avait aussi la constitution des collections faites par les fouilleurs étrangers, qui recevaient en partage, après une cérémonie ou service des antiquités, quelques objets trouvés par eux dans leurs fouilles pour leur musée, et la plus grande quantité pour le musée du Caire. Je ne parle pas des fouilles clandestines qui ont été faites et qui continuent à être faites. Ceci constitue à sortir de la terre d'Égypte, ou plutôt des sables, du sébar, comme on dit, d'Égypte, des antiquités, et surtout de les faire filer dans les musées occidentaux d'une façon assez secrète. C'est ce qu'on appelle la fouille clandestine. Ça a toujours été, ça se fait encore, ça s'est fait d'une façon invraisemblable au début du siècle. C'est plus difficile maintenant, mais il y a encore ce qu'on appelle la fouille clandestine, qui permet à des antiquaires de sortir des objets qui ont été trouvés sur des chantiers de fouilles clandestins, avec la contribution et la collaboration des Égyptiens eux-mêmes qui sont sur le terrain, et qui partent par des moyens détournés, il y a beaucoup par la mer Rouge en ce moment, et ça continue en Occident. C'est normal. C'est... Non, c'est pas normal, mais on les comprend et on sait que ça, comme cela, et c'est très difficile d'arrêter cette hémorragie. On peut la diminuer, c'est ce qu'on a fait. Mais arrêter l'hémorragie, c'est très difficile. Les Égyptiens, entre nous, du reste, je ne sais pas, désirent tellement que l'hémorragie soit totalement arrêtée. Car ils ont besoin de sortir quelques objets eux-mêmes pour les faire figurer dans les meilleures conditions et trébuchent sous l'espèce de trébuchante sonnante en Europe et en Amérique. Voilà le problème.
Dans votre livre « Le secret des découvertes » aux éditions Télémaque, vous mentionnez cette magnifique bague qui fait l'admiration des visiteurs du musée du Louvre et qui a eu une histoire extrêmement complexe. Vous pourriez nous en dire quelques mots ?
Ah, c'est au moment des Trois Glorieuses, enfin. Il y a toujours des petites révolutions chez nous, vous savez. Et au moment des Trois Glorieuses, quelqu'un s'est répandu dans les salles du Louvre, a ouvert gentiment une vitrine, a chipé quelques objets et les a emmenés chez lui. Et dans cette vitrine, il y avait, parmi de tout petits objets, quelque chose d'extraordinaire. Une bague haute de 2 cm en filigrane d'or, dominée par un duo de 2 chevaux extraordinaires, presque, comment dit-on, dressés, cabrés. Et qui sont là, sur une petite plateforme, bordée par des lotus en creux, des petits lotus en or, qui étaient incrustés de pâte de verre. La pâte de verre est partie, il reste donc l'intérieur des incrustations, et la bague est vraiment très jolie. Cette bague, qui a été volée pendant la Révolution de 48, est restituée par un petit, pourquoi on ne le saura jamais, un petit garçon pâtissier qui, 3 jours après le rapt, est venu au Louvre apporter la bague en disant qui il était, un petit garçon pâtissier, etc. Est-ce qu'il l'avait pris ou est-ce que c'est son patron qui l'avait chipé, auquel il l'avait prélevé, je ne sais pas. Mais il a ramené la bague au conservateur du Louvre. C'était à ce moment-là Monsieur de Rouget, un des premiers célèbres égyptologues au Louvre. Voilà, après cette histoire étonnante, ce que l'on peut dire de cette petite bague aux chevaux. Et si vous les regardez bien, la bague est haute comme ça. Donc, vous voyez la taille des sabots des chevaux. Eh bien, vous savez que les chevaux de course, ou certains chevaux, et surtout au XIXe siècle, avaient ce qu'on appelle la rainure, la rainette. On prenait cette espèce de roulette, comme cette roulette dont les pâtissiers se servent pour faire le bord des tartes, et de faire un trait légèrement ondulé à la base du sabot. C'est, paraît-il, c'était pas facile. Eh bien, les chevaux de cette bague qui orne le bijou sont ornés par la rainette. Ils ont ce petit trait très amusant. On imagine volontiers que cette bague doit venir des entours du Ramesséum. Le Ramesséum, c'est grosso modo le tombeau des taureaux Ramessides, mais des taureaux sacrés et momifiés qui ont été déposés dans la région. Et on pense que la bague aux chevaux fait partie d'un trésor qui a été déposé par Camoas lui-même, un des fils les plus glorieux de Ramsès II, au moment où il a voulu faire un don, un pieux dépôt au nom d'un des fils de Ramsès II. Cette bague a été retrouvée, naturellement, on ne saura pas comment, mais elle a été retrouvée par des fouilleurs clandestins dans la région et a été donnée à quelques hommes politiques égyptiens au début de notre siècle. Ils ont gardé la bague pendant quelque temps, en se demandant s'ils devaient la donner au gouvernement, en faire cadeau à je ne sais pas quel visiteur. Ça se faisait beaucoup au début du siècle. Chaque fois qu'il arrivait un visiteur, le directeur des antiquités faisait venir son conservateur et faisait ouvrir une vitrine du Louvre pour y prélever quelques objets. Donc, il pouvait faire cadeau à ses visiteurs de marque, ce qui n'était pas très recommandable et ce qui a été fait malheureusement. Et la bague aux chevaux, qui a été dans les mains de Mariette Pacha certainement, elle est passée de main en main, elle est arrivée au musée du Caire, elle est partie du musée des vitrines du musée du Caire, elle y est retournée, elle a fait comme ça un va-et-vient continuel, jusqu'au moment où cette bague aux chevaux est au Louvre maintenant. Et si vous allez au premier étage de la collection égyptienne, et si vous regardez la vitrine dans laquelle se trouvent quelques bijoux, vous ne pourrez pas éviter de trouver dans un coin cette petite bague en filigrane d'or. Quelque chose d'extraordinaire.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre en 2007 entre Pascal Vernus et Christiane Desroches Noblecourt. À voix nue, réalisation Christine Berlamont, prise de son Frédéric Guéroux, coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et se podcast sur franceculture.fr. Mmh.